Radio Campus.
Mesdames et messieurs de la Terre, nous vous saluons en toute paix et en toute amitié.
La radio des musiques.
Radio Universiteto 78.3.
La radio internationale.
Radio Campus 88.3.
Alors,
on se fait un film.
Votre 7 à 8 cinéma, tous les mercredis sur Radio Campus 88.3 FM.
Avec nous, venez faire le plein de bobines. Rendez-vous à la prochaine séance. Alors, on se fait un film.
Le mercredi, de 19h à 20h, sur Radio Campus 88.3 FM.
Et bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Campus Orléans. Et nous allons donc parler de cinéma pendant une heure, de l'actualité cinématographique. Donc c'est avec un grand plaisir que je vais co-animer cette émission avec mes acolytes habituels. Enfin, une petite partie, parce que vous n'êtes que deux ce soir. Et donc, bonsoir Vincent.
Bonsoir, est-ce que tu m'entends ?
Oui, je t'entends bien.
Par contre, je t'entends très faiblement.
Ah !
Je pense que c'est simplement le retour dans les casques qui doit être...
Et si tu augmentes le volume de ton côté ?
Même en augmentant, ça crachote en fait. Ouais.
Et sinon, est-ce que Et là, si j'augmente de mon côté, peut-être que...
Bon, en tout cas, j'arrive à t'entendre dans mon ton.
Tu m'entends ?
Bon. Oui, on s'en sortira comme ça.
Eh bien, alors j'augmente aussi votre enceinte de votre côté.
Okay.
Voilà, excusez-nous, on est en direct et c'est vrai qu'on fait les réglages maintenant. Eh bien, on va essayer d'avancer comme ça. Bonsoir Claude aussi.
Bonsoir.
Oh là là, on t'entend de loin. Si tu es devant ton micro, ce sera mieux.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue.
Oui, oui, bienvenue effectivement sur cette émission qu'on organise toutes les deux semaines après avoir vu quelques films au cinéma. Et pour commencer, je vais vous parler un peu de l'actualité cinématographique. Et vous avez peut-être entendu parler des dernières récompenses qui a eu lieu là tout récemment. C'est un peu les premières de l'année 2026, mais qui concerne les films de 2025, et c'est les Golden Globes qui donc sont organisés à Beverly Hills. Et donc cette année, eh bien, le film qui a remporté le plus de victoires, c'est Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson, qui a été nominé 9 fois, mais qui a reçu quand même 4 victoires. Et du coup, dans cette sélection, il y a eu aussi le film de Chloé Zhao, Hamnet, qui a reçu quand même le prix du meilleur film dramatique, qui est actuellement à l'affiche en ce moment donc en France. Et donc, n'hésitez pas à aller le voir. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que donc le film de Paul Thomas Anderson a reçu quand même donc les 4 prix. Il y a eu celui du meilleur film comique ou comédie musicale, le prix de meilleur réalisateur, meilleur scénario, et aussi, il me semble, le prix de la meilleure actrice dans un second rôle. Voilà pour ce film. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Je crois que...
Lequel ?
Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. Je crois qu'on l'a tous raté. Oui, ou peut-être que Gob l'avait vu.
Oui, moi je ne l'ai pas vu.
Mince, bon, on ne peut pas vous en dire deux mots. Mais il a été quand même bien récompensé. Ce que je peux aussi donner comme information sur les Golden Globes, c'est aussi l'acteur Wagner Moura qui a joué dans L'Agent Secret de Kleber Mendoza Filho, qui a reçu aussi la récompense du meilleur acteur, film qui a aussi reçu le prix du meilleur film en langue étrangère. Et ce que j'ai repéré également pour le meilleur film d'animation, alors Gob avait vu Arco et qui était vraiment bien placé, et c'est le film K-pop Demon Hunters de Maggie Kang et Chris Appelhans qui a reçu cette récompense du meilleur film d'animation, que je vous incite à voir, qui est vraiment chouette, un bon film de divertissement avec une animation qui est très vive et qui donne bien envie, avec un scénario qui tient bien la route et une bande originale aussi et sympathique,
marche très bien.
Qui marche effectivement bien. D'ailleurs, on écoutera le morceau qui fait le tour, le morceau Golden, et qui a reçu aussi le prix de la meilleure chanson originale. Donc c'est un morceau qui cartonne pas mal. Et un dernier prix que je peux vous citer, on est dans la musique, et là c'est la meilleure bande originale qui a été décernée au film Sinners, dont la BO a été composée par Ludwig Göransson, qui est un compositeur qui est très connu dans le cinéma, qui a notamment composé la musique d'Oppenheimer, Tenet, Black Panther, enfin plein de films. Et donc il a été récompensé, voilà, au Golden Globe pour cette meilleure bande originale, donc le film Sinners de Ryan Coogler. Mais on entendra, je pense, tout à l'heure on fera une petite pause musicale et on en profitera pour écouter cette bande originale. Voilà, et dans l'actualité, ce que je voulais aussi vous dire, oui, vous êtes peut-être au courant, mais il y a la liste des nominations au César. Voilà, ça c'est notre événement à nous en France, qui regroupe toute la profession cinématographique. Et donc les nominations sont sorties ce matin. Et donc on va. Qu'est-ce que je voulais vous dire quand même? Vous sortir quelques titres. Oui, quand même, les nominés pour le César du meilleur film. Donc, il y a Un simple accident de Jafar Panahi, qui a reçu la Palme d'Or donc en 2025. Il y a La petite dernière de Afsia Herzi, Nouvelle vague de Richard Linklater, Dossier 137 de Dominique Moll, L'attachement de Karine Tardieu pour le meilleur film. Et ensuite, ce que je voulais aussi vous dire pour le meilleur film étranger, on retrouve L'agent secret donc de Kleber Mendes Affilio, Black Dog de Gan Hook, Gob nous en avait parlé, il y a Sirat de Oliver Lax, Une bataille après l'autre, voilà, qui a été richement récompensé au Golden Globe, qu'on retrouve ici dans les nominés du meilleur film étranger, donc le film de Paul Thomas Anderson, et Valeurs sentimentales de Joachim Trier. Voilà, et dans les catégories qui peuvent nous intéresser, je voulais aussi vous parler de la catégorie du meilleur film d'animation. Les nominés, il y a donc le film Amélie, la métaphysique des tubes, réalisé par Maëlys Valad et Liane Chohan. Il y a donc Arco, voilà, Gob va être content, Arco, donc réalisé par Hugo Bienvenu. Et La vie de château, mon enfance à Versailles, un film qui est réalisé par Clémence Madeleine, Perdria, Natalienne, Ashlimi. Voilà. Bon, voilà, il y a plein d'autres catégories. Et donc, et les Césars, il me semble que la soirée est prévue le jeudi.
Ouais, la veille de ce que ça aurait dû être, en fait. Parce que le vendredi, il y a un autre événement et ils ont dû recaler d'une journée avant. C'est rare, hein, c'est un jeudi soir.
Ah oui, effectivement.
J'ai pas la date précise.
Et il me semble que c'est fin février.
Ouais, ouais.
Et tu dis que c'est du coup le jeudi.
Pas un vendredi,
donc ce serait peut-être le 26 février.
Peut-être, ouais, je me souviens pas de ce
Il me semble que c'est fin février. Bon, eh bien, on vous en reparlera à ce moment-là. Voilà les événements à venir. Et je vais laisser la parole à Claude. Car tu as commencé ta tournée des festivals avec Angers. Angers qui est donc le festival Premier Plan. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
Oui, je commence par A, Angers, puis je vais poursuivre par B, Brive. Oui, je peux vous en parler. D'abord, j'ai fait de nombreuses interviews, mais ça, c'est pas très important. J'aurai peut-être l'occasion de passer ici. Je viens de recevoir un mail là, d'Angers, on a atteint 83 000 spectateurs.
Mais, ce qui est bien.
Oui, mais j'ai interrogé donc, le créateur du festival, Claude et Éric Poiroux, et je lui ai demandé, moi ce qui m'a... c'est bien de faire 83 000 spectateurs, mais ce qui est encore mieux, c'est de savoir le nombre de spectateurs qui viennent. Parce que moi, par exemple avec ma femme, on a compté pour 32 entrées, on n'a que deux. Et oui. Et ils pensent, alors ils essayent, parce que c'est important pour eux, ils pensent que peut-être que le nombre de présents, de spectateurs présents, serait en légère augmentation, mais que les gens achèteraient moins de places. Mmh. Et je connais une femme qui était comme ça, parce qu'au bout de 15 ans de festival, j'arrive à reconnaître des têtes. Il y a une dame qui me dit, je vous reconnais, vous étiez là en 2013. Merci madame. Et elle fait partie des bénévoles. Et cette dame me dit, cette année, moi j'ai pris qu'un pass de 6 places et pas un pass de 20 passes. Mmh. Donc il creuse ce domaine, parce que c'est pas facile à savoir. Hein.
Mmh.
Bon, ça c'est important, mais par contre, le plus important c'est l'avenir financier du festival. Mmh. Où le budget a culminé à une époque à 1 583 000, il est passé à 1 383 000.
C'est la région aussi qui est en train de supprimer.
Il y a eu deux défaillances. Il y a eu la région de Mme Morancet,
présidente
du Pays de Loire, 104 000 euros, qui supprime la subvention au mois de novembre quand le festival a lieu au mois de janvier. C'était l'an passé, ça. Très facile. Heureusement, il y a la ville d'Angers qui met quand même 400 000 euros dans le...
Ah oui, quand même.
Ah oui, la ville d'Angers, Christophe Béchu, met 400 000 euros dans le commerce. Je n'ai pas pu poser la question à Claude-Éric Poiroux, mais je sais qu'un ancien maire, qui n'était pas lui, disait, moi, quand je mets 1 euro dans le festival, j'en recueille 6.
Mmh. Oui, économiquement, oui. Effectivement, tout le public qui vient au festival
évident,
consomme à côté.
Moi, le Airbnb, c'est pas... J'en avais un qui était très chouette l'an passé. J'ai rappelé, on m'a dit, oh, Monsieur Boulet, il est pris depuis le mois de novembre. Hein. Donc, les gens prévoient. Bon, revenons au cinéma. Et cette année, donc, oui, alors il y a ce qu'on appelle les mécènes particuliers, dont je fais partie, et qui ont atteint cette année 67 000 de dons. Donc ça arrive, on va arriver, à, je pense, à couvrir ce que donnait la région. Mais il y a l'Europe qui donnait 40 000 euros, c'est fini. Donc il y a une baisse des budgets. Et cette baisse des budgets a entraîné effectivement une baisse de, j'allais dire, du nombre de films présentés. Claude Ripoll, on présente moins de films qu'habituellement. Ce qui est quand même un peu ennuyant. Et puis, on a bien vu qu'ils avaient quand même réduit la voilure. J'ai vu moins de cocktails cette année que j'en avais vu il y a 10 ans, par exemple. Bon. Mais, et ça, je reviendrai sur son interview. Alors, on va parler des films en compétition. Cette année, il y avait 6 films en compétition, plus les films d'école, plus les courts-métrages, plus les films d'animation. Bravo Girel, bravo Céline, vous avez remporté un prix avec Suleymani.
Oui, effectivement. Oui, on a produit un court-métrage d'animation, oui. Suleymani, qui a été sélectionné et primé au festival.
Vinnie Boss, je crois, son
Vinnie, nom. Oui, Vinnie Anne Boss.
Oui. Vinnie Anne Boss, oui, c'est son nom.
Qui est la réalisatrice.
D'origine indienne, mais qui vit en France. Et qui a fait une école à Valence, qui a fait une école d'animation à Valence.
Oui.
J'aime beaucoup les films d'école. Et alors, par contre, sur la fréquentation, le film d'école, c'est le premier film que j'ai vu, parce que je suis arrivé, j'étais un peu crevé quand même. Et avant, quand on allait voir les films d'école, quand on était 100 dans la salle, c'est bien, il y a des mots. Là, 1200 dans la grande salle et blindé, complet. Mmh. 1200. Donc c'est plutôt bien que les gens se déplacent pour voir des films d'école, pour voir des courts-métrages. C'est plutôt encourageant. Sur les films qui étaient présentés, cette année, il y a toujours la séance avec les psys le samedi après-midi. Et une des psys a fait remarquer que c'était... qu'est-ce que disaient les gens disaient un certain nombre de choses. Ce qu'elle avait remarqué, c'était jusqu'où aller pour ne pas aller trop loin. Moi, j'ai surtout remarqué que sur 6 films en compétition, 3 étaient sur le doute. Le doute d'un boxeur, de ce que je vais continuer ou pas. Le doute d'une femme qui devra entrer dans les ordres, c'est les dimanches, qui passent à l'heure actuelle. Mmh. Le boxeur, et le doute, donc, pour de rentrer en religion. Et il y a une troisième personne qui doute, j'ai oublié le nom du film, qui doute aussi sur ce qu'elle doit faire. Donc le doute était très, très présent. Le grand prix du jury va à un film qui s'appelle, j'ai le palmarès ici, qui s'appelle Les Dimanches, qui passe à l'heure actuelle
au
cinéma d'Aluda Ruiz de Azoua. Mm. Et le prix du public, c'est un film sur les sourds, enfin sur une femme qui est sourde et qui s'appelle Sorda et qui va sortir, c'est prévu je crois au mois de mars, ce qui est un film qui traite elle est malintendante, elle vit en couple, ils ont un enfant. Et toute la question est de savoir si cet enfant va être malintendant ou pas. Et il n'est pas malintendant, ce qui pose des problèmes dans le couple. Parce que le père, lui, n'est pas malintendant. Et là, il y a une évolution du couple qui est très, 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 très intéressante. Donc c'est un... Moi j'ai un film que j'ai beaucoup aimé, qui n'a rien eu du tout, alors, rien, qui est un film d'une Suisse qui s'appelle Abralcor, sur un viol qui a eu lieu dans les années, juste pendant la guerre 14-18 en Suisse, et c'est l'histoire de ce viol, et surtout c'est l'histoire de du destin de cette femme, chez les protestants, qui vient d'une famille très pauvre, mais... l'association dont elle fait partie l'a élue pour qu'elle puisse faire des études d'infirmière et elle se fait violer, et ce qui fait qu'on peut pas, si on a été violé, qu'on a un enfant, on peut pas aller dans
cette études d'infirmière. Oui, car elle est enceinte à la suite de son viol.
D'accord. Donc c'est sa vie. Moi j'ai trouvé que ce film était... Alors, Je lui ai dit à la réalisatrice, vous avez fait une mise en scène calviniste. C'est un film, on dirait que c'est un protestant qui a fait la mise en scène. Il n'y a pas un plan de trop, il n'y a pas un mot de trop, c'est épuré, c'est ascétique au possible. Mais j'avais trouvé ce film très... Moi, j'ai trouvé ce film très... Très maîtrisé. Alors, ce n'est pas son premier film. Là aussi, Angers se réserve, festival premier film, j'ai demandé, je ne sais pas, non, elle a déjà fait un autre avant, donc c'est son deuxième film. Mais il se réserve le droit de faire d'autres films, de sélectionner une personne qui a fait d'autres, qui a fait déjà un long métrage. Et puis, j'ai fait un film qui est très curieux, qui n'a rien eu, qui s'appelle La Gifle. Alors j'avais déjà vu ce film à La Roche-sur-Yon sous un autre nom. J'ai vu la distributrice qui m'a dit oui, on peut changer de nom tant que le film n'est pas passé. Donc ils ont changé le film. Ils ont changé le titre, oui, pas le film. Alors c'est très drôle, c'est pas très drôle. C'est un film, bon, l'histoire
c'est un film
est
allemand.
Très simple.
Mais c'est un film allemand. C'est un film allemand, mais ils ont peut-être changé le titre français. Du coup,
le titre français, oui. C'était Marianne a tout vu, le premier, je crois. Ouais. Et là, c'est devenu La Gifle. Et effectivement, c'est l'histoire d'un couple de cadres supérieurs. Et la petite fille, qui a à peu près 12-13 ans, prend une paire de gifles, pas par ses parents, à l'école. Et à partir du moment où elle a pris cette paire de gifles, elle sait et elle voit tout ce qu'ont fait ses parents. Alors, c'est très drôle. Et l'idée du film, son intention, c'était, moi, il dit, quand j'étais petit, j'ai remarqué que les parents observaient beaucoup les enfants, et moi, je veux observer les parents. Donc, c'est un temps d'enfant qui observe les parents, et il prend. Alors, c'est un film qui va pas, je sais pas s'il va marcher. À mon avis, ça va être difficile. Puis, parce qu'il prend cette intermédiation de ces... La gifle, c'est juste un process cinématographique, parce que bien évidemment qu'elle n'est pas douée de télépathie, elle n'a rien eu. Mais il se sert de ce process pour voir tous les petits travers des personnes, leurs mensonges, tout. Moi, j'ai trouvé ce film intéressant, mais le process qu'il a utilisé est très troublant, et effectivement, il y a des gens qui ne comprennent pas. Bon. Moi, j'ai beaucoup aimé un film qui va passer sous peu, et qui s'appelle « La danse des renards », sur le doute d'un boxeur, où le réalisateur, l'acteur principal, Samuel Kircher, a remporté le prix de masculin, Samuel Kircher étant le fils d'Irène Jacob, et de Kircher, qui est lui aussi acteur. Donc, c'est un film de boxe où rien n'est doublé, C'est très bien. Donc voilà les films qui ont... Alors il y a deux films qui étaient hors compétition, qui passent. Il y en a un qui passe au Carme à l'heure actuelle, c'est Grand Ciel, et on en parlera peut-être tout à l'heure. Et puis un qui est un film qui est le Cabaret d'Or à Cannes, qui s'appelle Le Gâteau du Président. C'est un film irakien, et moi c'est un film qui m'a beaucoup touché. Et j'aurai peut-être l'occasion d'en parler. Moi, je vous demande, il passe au Carme, je crois, en ce moment. Je vous demande d'aller le voir, parce que c'est l'histoire d'une petite fille. Alors, quelle est l'intention du réalisateur? C'est de montrer, dans la première guerre qu'il y a eu en Irak, avec les Américains, c'est de montrer quelle était la difficulté des gens pour vivre. Et il se sert d'une petite fille qui a 13 ans et qui se balade partout avec un coq, elle l'emmène à l'école, et pas de chance, le jour où on doit fêter l'anniversaire du président, il faut que dans une école, toutes les écoles fassent un gâteau pour le président, et elle n'a pas de peau, ça tombe sur elle, et elle n'a pas d'argent, c'est très pauvre, elle n'a pas d'argent, il faut qu'elle trouve des œufs, il faut qu'elle trouve la farine, il faut qu'elle trouve... Et c'est toute cette histoire de ce road movie pour trouver les ingrédients et pour faire ce gâteau, tout en découvrant ce qui se passe en Irak. Moi, j'ai trouvé... Alors, il ne tombe pas dans le pathos, il ne tombe pas dans la mièvrerie. Moi, je trouve que c'est très touchant et extrêmement bien réalisé. Et à l'heure actuelle, j'ai appris que la France aidait l'Irak à monter une cinémathèque à Bagdad à l'heure actuelle. Et j'ai un copain qui a travaillé en Irak, et il dit, et moi j'ai appris beaucoup de choses, il y avait un réalisateur qui a séjourné en Cisjordanie, en Irak ce sont des gens extrêmement cultivés, Les Français sont bien vus, bon, c'est anecdotique, mais ce sont des gens très cultivés, il y a beaucoup de musées, il y a du théâtre, c'est vraiment un pays très éduqué. Comme j'ai appris aussi avec ce film sur la Cisjordanie, que eh bien les Palestiniens avaient de grandes universités et de très très bons profs. Et c'est pas du tout ce qu'on voit à la télé, c'est pas du tout ce qu'on entend. Ce sont des gens de grande éducation. Donc voilà, je ne vais pas parler plus d'Angers, on parlera d'autres...
Oui, surtout que les films, on en parlera au fur et à mesure.
Au fur et à mesure, bien sûr. J'ai fait notamment la danse des...
Des renards.
Des renards. Mmh. Oui, parce que le film, on se demande pourquoi on appelle ça la danse des renards, et on le sait. Bon. De Valérie Carnoy, qui est un Belge, qui a fait des études de cinéma grande école de cinéma belge qui s'appelle le Royal, je sais plus, mais grande école. Et il était psy avant, il s'occupait de gens qui étaient soumis aux drogues. Donc, puis il est parti, puis il a fait des études de cinéma. Donc, il a déjà tout un vécu avant de commencer. Alors, chose très importante sur les premiers films, c'est, j'en parlais avec Claude-Éric Poirot, c'est que les gens s'inspirent énormément de ce qu'ils ont vécu pour leur premier film. Moi, je vois bien l'école de scénario où je suis, hein, à part 10 au départ, ils ont tous pris des choses qui leur étaient arrivées.
Mais oui, mais la plupart du temps, les réalisateurs et les réalisatrices s'inspirent de leur vie, de la réalité, de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ressentent. Oui. Et ils parlent de ce qu'ils savent.
Oui.
C'est intéressant. Enfin, moi, je trouve que c'est pour ça que les films sont le reflet de leurs auteurs et leurs autrices.
Il faudra écouter la fin de l'interview de Claude-Éric Poirot, qui est très intéressant à ce sujet. Il dit, ça en vient... finalement faire quasiment pour certains des documentaires. Mais en fait, il parle maintenant, au début il parlait beaucoup d'eux, maintenant il parle de la vie de tous les jours, de la vie des gens, ce qu'on a vécu. Mais je veux dire, moi, je dois faire 3 scénarios, je m'inspire absolument pas de ce que j'ai vécu. C'est, comme dit la prof, c'est dans ta salle de bain, c'est en prenant ta douche, c'est exactement ça.
Tout dépend ce que tu veux. Après, tu peux aussi partir d'un scénario très lointain de ton quotidien,
oui,
mais
oui,
de parler de ton...
Ben, oui.
Mais que ce soit, je veux dire, relié à ton expérience aussi.
Oui.
Toi, ça n'empêche pas.
Mais on a, avec les psys, la cause freudienne de Paris, d'Angers, on a quand même observé que, voilà, 10 ans, on avait des films d'une toute autre qualité que maintenant. Ça, c'est...
Oh là là.
Et oui, je pense quand même qu'il y a...
un déclin.
Comment ?
Je ne sais pas si on peut vraiment analyser. Bon, on arrive à la moitié de l'émission, et puis t'as eu la chance d'interviewer pas mal de personnes,
oui,
à premier plan, donc à Angers, et on écoutera les interviews au fur et à mesure des émissions dans les prochaines semaines, donc on aura effectivement beaucoup de chance.
Oui.
Et du coup, si tu as fini, Claude...
Oui, j'ai fini, je
on peux...
pas...
Non,
oui, j'ai fini.
Non, mais c'est hyper intéressant, parce qu'il faut aller dans les festivals, enfin, n'hésitez pas, si vous avez l'occasion d'aller dans les festivals pour découvrir des films qu'on ne voit pas forcément en salle, donc
oui,
c'est très bien.
Oui, et là, l'interview de Claude-Éric Poirot est extrêmement intéressante. La question que je lui avais posée, c'est ce qu'il avait vu comme évolution dans l'écriture cinématographique depuis la création de ce festival en 89.
Mmh.
Voilà.
Ok, eh bien, hâte d'écouter l'interview. Je vous propose une pause musicale avant de faire nos chroniques de films. Donc, comme j'en parlais en début d'émission, Ludwig Göransson a donc reçu le Golden Globe de la meilleure bande originale pour le film Sinners de Ryan Coogler. Donc, je vous propose d'écouter un morceau et on se retrouve juste après. Et vous êtes toujours donc sur Radio Campus Orléans. Et vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans. On vient d'écouter un morceau de la bande originale du film Sinners de Ryan Coogler, donc qui a été récompensé au Golden Globe cette année. Et donc, on continue l'émission avec donc nos chroniques de films et ce que vous avez vu donc dernièrement. Et donc Vincent, il me semble que tu es allé voir Les Échos du passé, oui, de Masha Chylinski.
Oui.
Chylinski, je ne sais pas comment tu
prononces. Je ne sais pas, j'aurais dit Chylinski aussi. Oui. Réalisatrice allemande. Ce film, lors du dernier festival de Cannes, a eu le prix ex-aequo avec Sirat, dont on a beaucoup parlé,
carrément,
compris,
oui,
dans notre classement. Mmh. Et donc, voilà, ils étaient ex-aequo cette année, enfin en 2025. Le film m'avait intrigué parce que j'en avais entendu parler un petit peu en amont et le sujet m'intéressait particulièrement parce que, en fait, ce qui a amené la réalisatrice à faire le film, c'est les photographies post-mortem très à la mode au début du 19e siècle, 20e siècle, c'est-à-dire dès qu'on a inventé la photographie, très vite on a voulu faire des portraits de nos morts pour garder un souvenir, un ultime souvenir involontairement. Et du coup, elle est partie de cette, je pense, d'une image qui l'a beaucoup marqué pour documenter le sujet, pour en faire un long film dramatique, puisqu'il fait 2h25, et alors, qui n'est pas exempt de problèmes, toutes les qualités du film sont ses problèmes aussi, en fait. Et j'ai beaucoup pensé à Claude, en fait, pendant le film. À ton avis, Claude, Petite question subsidiaire et primordiale. Dans quel format le film est-il tourné ?
Quel film tu parles ?
Le film dont je vais parler, Les Échos, oui, du passé. Tu n'as pas vu, du coup.
J'ai pas vu, non.
À ton avis, il est tourné en quel format ?
Ah ouais, si tu me poses la question, il est fermé en 4 tiers.
Voilà.
Oh, c'est étrange.
Gagné. Indice sur le fait de ce que j'ai ressenti pendant le film. Quand j'ai vu ça, je me suis marré. J'ai dit, Claude, il va rigoler. Parce que, effectivement, au début, on a un format 1.33 normal, et je vois que ça projette qu'au milieu. En fait, ils ont tourné sur un format normal, mais ils ont juste gardé qu'un 4 tiers au milieu.
Ok, tu penses qu'ils ont rajouté des bandes à droite, à gauche ?
Bon, en tout cas, la réalisatrice a voulu faire un format contraint.
Alors, la question que je te pose, j'ai pas vu le film, mais c'est justifié ou pas ?
Un peu, oui, peut-être. Plus peut-être que pour celui qui se passe, enfin, sur, comment dire, que j'ai pas vu d'ailleurs, mais que j'aurais bien voulu voir. Tu avais déjà parlé dans la jungle, là, enfin.
Magellan.
Magellan. Je l'ai pas vu, mais je voudrais bien comparer les deux, parce qu'ils font la même durée, etc. Oui. Pour avancer sur ce film-là,
j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus.
Comme ça parle beaucoup de photographie, Les Échos du passé, je pense que le format, il peut se comprendre aussi dans un format historique de la photographie, c'est-à-dire très carré. Pourquoi pas? Après, comme tu évoquais tout à l'heure le calvinisme, moi je parlais de Luther aussi, parce que ce film, il est très sec au début. En fait, l'histoire, c'est sur une histoire, en fait, de 80 ans d'histoire allemande. Le point commun, c'est une ferme rustique, rurale, vraiment, de l'Allemagne du Nord. Et cette ferme, c'est le lien, en fait, entre 4 générations qui vont y vivre. Ça démarre en 1912-1913, juste avant la Première Guerre mondiale. Après, on a une étape dans les années 30-40, avant la Deuxième Guerre. Puis après, les années 70. Et puis, de nos jours. Et le lien, bah, c'est les gens qui y vivent dans cette ferme. Et alors, les échos du passé se répètent comme ça. C'est-à-dire qu'il s'est passé des choses dramatiques, des choses très, très lugubres. Et ça traverse les époques. Et c'est une façon de nous montrer comment la mort, c'est quand même le thème central, c'est notre finitude. Hein. Donc, c'est pas super drôle. Je vous assure tout de suite que vous rigolez pas en sortant de la salle, ni même en y rentrant. Et c'est l'un des problèmes probablement aussi. Mais en même temps, c'est assumé. C'est le thématique. Ce qui est dommage, c'est... Il y a tous les travers de ce que moi ça va m'irriter, c'est-à-dire un film très égotique, très 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 démonstratif, très pédant dans la forme, c'est-à-dire je me montre filmé, il y a un côté comme ça très classieux. Alors c'est extrêmement beau parfois, il y a des très très beaux plans, mais en même temps c'est trop démonstratif et presque très lent, contemplatif, pour ne rien dire parfois. Donc ça c'est un peu dommage, pour mettre une ambiance, une tension particulière. Au niveau sonore, ça voudrait se prendre pour Lynch, mais c'est pas Lynch du tout. Donc il y a des effets de gros bourdonnement, des choses, des effets en salle qui sont presque dignes du 4DX, des cinémas un peu interactifs, et ça n'a aucun sens en fait, pour si ce n'est angoisser peut-être un peu le spectateur, ce que je suppose que la réalisatrice a voulu faire, vu que le sujet est déjà assez lourd. Si on peut en plus en rajouter un peu dans la, comment dire, dans le stress sonore dans la salle, c'est pas mieux. Donc voilà les problèmes. Par contre, voilà, il y a aussi de très belles qualités. C'est pour ça que je suis pas sorti. Quand j'ai raconté le film à ma sœur, je lui ai dit à quel point tout était négatif, et elle m'a dit mais j'ai vachement envie de le voir en fait, ce que tu me racontes. Et c'est vrai qu'en fait, il y a quand même des trucs qui sont très chouettes. D'abord, les générations qui se succèdent et les acteurs et actrices sont extraordinaires sur toutes les époques. Moi, j'ai préféré la première période parce que c'est vraiment, on rentre dans une histoire plus ancienne qu'on connaît pas trop. Et les années 1913, ce qui est génial, enfin, ce qui est super intéressant, c'est que la vie et la mort, on cohabite tout le temps avec. C'est-à-dire que, d'abord, c'est très précaire, la vie. Et le moindre petit pinçon, la moindre petite coupure, et hop, on meurt 10 jours plus tard d'un empoisonnement.
Infection.
Ou d'une infection qui galope. Donc, on faisait beaucoup d'enfants aussi pour compenser compenser des fois les pertes en bas âge, et c'est évoqué dans le film. Et donc après, bon, on voit l'évolution aussi de l'amélioration des soins. La mort devient tabou, en fait, alors qu'au début, avant 14, et puis avec la machine à broyer de 14-18, bien sûr, au début, la mort, on cohabite vraiment avec. C'est un drame à chaque fois de perdre quelqu'un, mais par contre, au point qu'on photographie carrément son défunt avec soi, donc on le côtoie, on le touche même.
Ouais, ce qu'on n'imaginerait pas aujourd'hui.
C'est plus possible, c'est tabou, on ne peut plus voir le mort, on fait encore des cercles ouverts, etc., mais bon, on n'a pas envie d'y aller. La nouvelle génération fuit ça un peu, on peut s'inclure dedans. Et du coup, le lien fascinant, c'est ça. Et le film, il vaut le coup pour ça et uniquement pour ça. Et ce qui est dommage, c'est l'enrobage, peut-être un petit peu le style de la réalisatrice qui va mettre un peu de côté ou va être un peu trop démonstratif, arty, j'aime pas le terme, mais c'est un peu ça malgré tout, parce qu'elle utilise beaucoup d'effets et à commencer peut-être par le format 4:3. Voilà, c'est dommage parce que ça vaut vraiment le coup. Par contre, pour la narration, pour certaines choses et pour les quatre époques qui sont bien, avec peu de choses, peu de moyens, bien marquées, avec les cultures différentes, les évolutions aussi. Alors les années 70, c'est très libertaire. On a vraiment l'époque, c'est une jeune fille en fait qui incarne le personnage et elle est très drôle parce que là on se marre plus parce que elle a la jeunesse pour elle, elle cherche l'amour, etc., mais malgré tout elle se rapporte toujours à la finitude des choses et à sa propre fin, même si Dieu merci elle survit une longue vie, j'espère, mais voilà. Donc intéressant, captivant, malgré tout alourdi par plein de choses qui sont dommages et qui sont un peu les oripeaux du cinéma à réessai dans ce qu'il peut faire de plus négatif pour s'auto-détruire en fait dans la volonté de ce qu'il veut montrer. Voilà, c'est mon avis, mais je vous le conseille.
En
rattrapage, essayez de le voir et il faudra que je vois Magellan en même temps et on fera une étude comparative. Est-ce que c'est un système, est-ce que c'est un trick maintenant dans le cinéma?
Moi, ce que tu dis, ça m'intéresse parce que t'es un homme d'image, toi. Oui. Et moi, je m'interroge. Est-ce que on revient beaucoup aux 4 tiers?
C'est fou. La preuve encore. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit.
On revient aux 4 tiers. Est-ce que c'est justifié ou pas? Alors, justement, au sujet de ce 4 tiers, il y a le garçon que j'ai interviewé, Mohamed Besba. Je lui dis, mais tu as fait des études de cinéma où? Il me dit, à la fabrique. Mais si j'avais eu le choix de faire des études, et si j'avais pu, je serais allé en Russie.
Ah oui.
Mmh. Et effectivement, les Russes. Drôle. Les Russes sont, ils connaissaient bien les écoles russes, parce que je lui ai dit, vous seriez allé à quelle école? Une école à Moscou qui a été créée par Eisenstein, donc des plus grandes écoles de cinéma.
Mais plutôt un documentaire du coup?
Comment?
Plutôt un documentaire du coup, ou non?
Non,
fiction aussi. Hein.
Non, non. Et je lui ai dit, mais il y a aussi l'Institut Sokourov. Mais oui, ça c'est pour, ceux du Caucase, ce qui est vrai d'ailleurs. Et l'Institut Sokourov était des spécialistes du 4 tiers.
Tiens.
Ouais.
Donc, et ça a du sens parce que moi je pense que la référence cinématographique principale de Chilinski, pour moi c'est Tarkovski et c'est Le Miroir par exemple.
Ah oui,
clairement, elle a fait un film miroir, dans le sens très bel objet, extrêmement classe, avec des séquences oniriques totalement abstraites, avec une lévitation vers la fin. Ça cite carrément Tarkovski quand il fait léviter les femmes dans ses films. Voilà. Mais et la Russie, ça se
tient. Voir Magellan, on aura l'occasion d'en reparler. Parce
mais ouais, je voulais le voir, hein, j'aurais bien aimé. Ouais, on en reparlera.
Et ben, merci. Donc les échos du passé, donc de la réalisatrice Masha Chilinski. Et bien voilà, allez le voir au cinéma.
Il passe plus maintenant. Il a eu deux semaines, début janvier à peu près, et puis il s'en est allé, je crois.
Il faut se dépêcher maintenant. Ouais. Mais bon, on doit pouvoir le trouver sur les plateformes. Il y a cet avantage maintenant d'avoir cette facilité. On passe en film suivant et qu'on a vu avec Claude et t'as commencé à en parler parce que t'en as parlé pour le premier plan. Il s'agit de Les Dimanches, donc le film de Alaouda Ruiz de Asua. Je le prononce peut-être pas bien, dis donc les noms des réalisateurs et réalisatrices, je suis mal barrée ce soir. Alors Les Dimanches, je suis étonnée que ce soit un premier film, parce que il me semble qu'à Angers, à premier plan, il n'y a que les premiers films qui sont sélectionnés. Et moi, j'ai vu le film et je me suis un peu renseignée sur la réalisatrice. Et en fait, j'ai vu que c'était plutôt son troisième long métrage.
Mais ça, c'est...
C'est bouffe, c'est
t'as tout dit sur Angers.
Ah d'accord.
On s'interdit pas de... Voilà.
Enfin, moi je me sois trompée, mais enfin, sur la page Wikipédia, en tout cas, il y a d'autres films, beaucoup de courts-métrages, mais c'est pas non plus son premier long-métrage, a priori.
Ce qui n'est pas le cas d'Annonay, mais je veux dire qu'Annonay, il voit moins de films. Les films sont vus réellement pas en accéléré. Et ils sont vus par 5 ou 6 personnes, quand même.
Oui, c'est vrai que...
Donc, et La Danse des Renards est invitée, sélectionnée à Annonay. Il dit Pupertin, c'est dans 2-3 jours, je crois, à Nonnaise. Je ne peux pas regarder.
Ah oui, c'est bientôt.
Mais oui, je serais bien retourné quand même. Bon.
Donc là, les dimanches, donc de cette réalisatrice espagnole.
Vendez-le-moi, parce que j'ai envie d'aller le voir, celui-là.
Ah, eh ben, écoute, oui, effectivement.
J'ai vu la bande-annonce, ça m'avait bien intéressé.
Bah, je t'y invite fortement, parce que le film est vraiment intéressant. Je trouve que comment elle aborde le sujet de la religion et de son endoctrinement, qui est vraiment bien abordé, enfin dans le sens où donc là on est sur l'histoire, c'est une jeune élève d'un lycée catholique qui décide de rentrer dans les ordres, et à la grande surprise de sa famille, parce qu'elle a sa famille qui pensait qu'elle allait faire des études à l'université et puis voilà, de découvrir la vie, de faire d'autres choses avant de rentrer dans un couvent. Et en fait la réalisatrice, elle filme la foi de cette jeune fille, je trouve, avec bienveillance, avec je trouve parce que c'est une jeune fille qui est intelligente, qui sait mettre les mots sur sa foi, sur ce qu'elle ressent, et une jeune fille qui ne se ferme pas à l'expérience, et en fait c'est assez assez troublant ou ambigu sur la position de la réalisatrice, où on se dit qu'elle est qu'elle va dans le sens de cette jeune fille, de respecter sa foi, de son envie de se consacrer à la religion catholique. Mais en fait, au fil de l'histoire, dans le film, donc on apprend que sa mère est quand même décédée, il y a peu de temps, qu'elle a un père qui parle peu, qui s'intéresse plutôt à ses intérêts personnels, à refaire sa vie, et il y a sa tante, sa tante qui a un regard plus critique,
très opposé,
voilà, je voulais, mais très critique sur la religion, et qui essaye de comprendre néanmoins, qui essaie de parler avec sa nièce, et elle exprime aussi, cette tante, une colère en fait de voir sa nièce s'enfermer dans un couvent. Et c'est ça qui est très intéressant, parce que nous, en tant que spectateurs, spectatrices, on est là entre est-ce que on pourrait respecter aussi la foi des gens, et aussi en même temps on entend aussi le discours de la tante, de cet enfermement, ce cloisonnement dans ce lieu, dans cette religion, et c'est ce que je trouve intéressant, c'est là où justement comment nous on peut se positionner face à ce que la réalisatrice nous montre, et en fait ça montre justement comment on peut être vite influencé, endoctriné par une communauté religieuse qui peut être sensible en fait, bienveillante, à l'écoute en fait. On pourrait croire effectivement que c'est une communauté qui est là pour ces personnes, mais en fait qui finit par un enfermement réellement, et des femmes, beaucoup de femmes qui pensent avoir la foi, mais se réfugient. Enfin, moi ce que j'en pense, et de ce que je peux en comprendre, et de ce que moi je peux en conclure, et de par ma propre expérience, enfin, que ces femmes qui pensent avoir la foi, mais elles se réfugient dans la religion, je pense, plutôt pour fuir le monde réel. Et moi, j'ai vraiment cette impression que cette réalisatrice, par le cadrage, parce que c'est très très beau, hein, l'image est très belle, les actrices, enfin, ces deux actrices, surtout cette jeune fille et la tante, sont, je trouve, incroyables dans leur jeu. Et il y a des signes quand même qui montrent comment cette jeune fille est endoctrinée, et j'adore la fin, la porte qui se referme sur cette jeune fille qui vient de faire ses vœux. Enfin, je trouve que c'est...
Tu m'as spoilé.
Qui, pardon.
C'est pas grave, t'inquiète, je me doutais que ça allait... Mais bon, c'est drôle. Vas-y.
Mais c'est hyper intéressant, ce plan dit énormément de choses, et c'est là où je trouve que l'image parle d'elle-même sans dialogue, oui, sans rien.
Par la symbolique de la porte qui
s'ouvre. Par la symbolique.
Alors, c'est bien ce que tu dis. Moi, la réalisatrice n'était pas présente, donc on n'a pas pu lui poser des questions, parce que je trouve que c'est un film extrêmement documenté, qui est juste. Et j'aurais voulu savoir s'il n'y a pas un peu de vécu dans ce qu'elle a fait. Et c'est là où il y a un film sur le doute. Alors, les psys m'ont répondu, ben oui, non. Le doute, il tient quand même à une porte entrouverte.
Voilà.
T'es d'accord?
Ah oui, complètement.
On va pas dire ce qui s'y passe, parce que vous allez voir le film.
Parce qu'il se passe plein de choses, en fait.
Mais le doute tient à une porte entrouverte. Ouais. C'était les deux doutes. Et le troisième doute que j'ai retrouvé, c'est Les Lumières ne meurent jamais, qui est un film finlandais, où un type est un très grand flûtiste et il a des doutes sur son style musical. Bon, c'est un film complètement brouillon, barré, avec un mec complètement barré aussi, mais c'est pas mal. Mais là, le film Les Dimanches, c'est un film... je suis pas étonné que ça soit... c'est un film maîtrisé. Mais les films qui sont plus maîtrisés, je parle de la film suisse, que j'ai trouvé très, très, très maîtrisé, c'est pas le premier, c'était aussi le deuxième film. Ouais. Donc, moi, je sais pas, il y a quand même des premiers films qui la caméra d'or c'est un premier film, le film irakien. Il aurait pu être sélectionné, enfin je veux dire, moi je m'interroge beaucoup sur les sélections.
Ah oui, non mais oui on peut,
parce que La Danse des Renards, on voit que c'est un premier film, il y a des maladresses, on le voit. Même si le type est très doué, on voit les maladresses. Mais là, Les Dimanches, il n'y a rien. Hein, c'est...
Non, effectivement, c'est bien, le sujet est bien maîtrisé. Et allez le voir parce qu'il est, là,
film juste,
il est en salle.
Oui.
Et oui, c'est vraiment juste. Et c'est, voilà, c'est vraiment intéressant sur les positions face à la religion. Et, on continue parce qu'il nous reste 10 minutes. Et peut-être qu'on va enchaîner. Il me semble, Vincent, que tu es allé voir 28 ans plus tard.
Oui, alors c'est une suite en fait du précédent 28 ans plus tard, parce que en fait, pour rappeler rapidement l'historique de cette série, parce que c'est vraiment une série, finalement, ça a démarré par 28 jours plus tard, il y a donc presque 29 ans maintenant, 27 ans, Danny Boyle, un réalisateur anglais, qui réalise un film dit d'infecté, c'est un genre à part entière, enfin, il y a le film de mort-vivant, de vampire, etc. Et là, en fait, c'est pas des morts-vivants, ce sont des gens qui ont un virus, et en 10 secondes, ils deviennent enragés, mais fous, courser, etc., avec les yeux injectés de sang, etc. Et voilà. Ça, c'était dans le premier film. Et donc, ça se passait dans un Londres tout vidé de sa population, parce que les gens étaient tous les uns contaminés, ils se mangent les uns les autres. Bref, c'est l'apocalypse. Et puis, il y a donc quelques personnages qui s'en sortent. 28 ans plus tard, le précédent film est sorti l'année dernière, donc ils enchaînent en fait une trilogie en très peu de temps, en un par an. Et ils tournent tout en continuité, c'est un triptyque. Et donc là, on est 28 ans plus tard, donc l'Angleterre a évolué, a fait avec, on va dire, avec cette contamination initiale. Et puis, les gens vivent dans des fermes, dans des cottages, finalement ils sont revenus plus à une époque un peu rustique, mais c'est pas tout à fait le thème du film en réalité, c'est plutôt une sorte de road movie, enfin c'est un peu des parcours de personnages qui vont éviter les ennuis, les embûches, et qui vont rencontrer un petit peu des personnes au détour de leur parcours. C'était raté complètement l'année dernière, c'est ça qui est fou, c'est que le film était vraiment mal bricolé, fait par Danny Boyle, mais il y avait des bribes de ce qu'il allait annoncer sur le prochain en fait. Et là le prochain, tout ce qui était pré-annoncé dans l'autre prend corps et devient vachement plus maîtrisé sur ce film qu'on a trouvé avec Arnaud à 100% réussi, quasiment, il n'y a rien à jeter. Alors c'est très dur, c'est très crade, très violent, c'est moins de 16 ans, et là pour le coup on découvre par exemple, le lien, c'est un jeune héros qui était dans le précédent film, un gamin, qui est récupéré là dans le début de celui-là par un gang de blondinets, enfin d'y mettre des perruques, un gang vraiment très Orange Mécanique dans l'esprit, c'est-à-dire, et on est bien en Angleterre, les chats ne font pas des chats, hein, c'est une référence à Kubrick, et donc c'est un groupe qui vit, qui vit par la violence et avec cette époque-là, une époque totalement post-apocalyptique, donc ils utilisent le fait d'être unis comme les doigts de la main, ils s'appellent la main d'ailleurs, les doigts, et en fait, eux, ils vivent de la capture d'autres personnes qui sont humains, hein, pas les infectés, bien sûr, eux, ils les évitent, ou ils les tuent, et puis, ils vivent de la violence, mais comme à la comédie médiéval pratiquement. On revient vraiment à l'époque Angleterre médiévale, donc c'est très dur parfois. Et en fait, on a un autre personnage qui est un docteur, et c'est Ralph Fiennes qui est extraordinaire dans ce personnage-là, qui était déjà présent dans le précédent. Et en fait, c'est un docteur qui est très malin. Il a réussi à s'isoler complètement de tout le monde comme ça, donc il fait sa petite cuisine médicale en fait. Il se nimbe, il s'enduit, il est tout orange en fait, le personnage, parce qu'il est complètement nimbé de bétadine, de trucs chlorés, et grâce à ça, il échappe au virus. C'est un peu subtil, mais bon. Et en fait, lui, il conçoit, il fait un énorme ossuaire tous les gens décédés, en fait. Et il leur rend hommage comme ça. C'est assez symbolique, c'est assez fort. Il a un truc pour, comment dire, pour récupérer les ossements après les avoir brûlés longtemps. Et il en fait un très bel ossuaire. C'est un bel objet, en fait, décoratif, presque du land art. Très macabre. Hein. Et en fait, lui, c'est un personnage qui est très malin, très intelligent. Et il parle à personne. Il écoute des disques des années 90. Il est très. Et il vit tout seul, complètement isolé de tous. Et il évite les problèmes. Et puis là, bah, il va rencontrer ce groupe de gang, en fait. Et puis, ça va se rencontrer à un moment dans le film. Bref, honnêtement, c'est étrange. C'est super intéressant. Je pense que le troisième, qui sera la fin, sera moins réussi que celui-là. Je pense que c'est celui du milieu qui reste le plus intéressant, le plus maîtrisé. C'est une curiosité. Il faut le voir. Il a été plutôt bien reçu. Les avis sont plutôt positifs. Mais après, il y a aussi des avis négatifs. C'est comme tout.
Parce qu'il y a un 28 ans plus tard là qui vient de sortir, oui. Il me semble.
Ouais, et celui-là s'appelle le temple, The Bone Temple en anglais.
Le temple des morts.
Voilà. Et c'est le mieux, voilà, de la nouvelle intrigue qui était initiée dans l'année dernière. On en avait dit du mal, on n'avait pas aimé le premier. Là, c'est le deuxième, et il y aura un troisième avec Cillian Murphy, qui était le héros originel du 28 jours plus tard des années 2000, qui reviendra. Il fait un caméo à la fin de celui-là, déjà le spoil, et il sera le personnage principal dans le troisième l'année prochaine, en 2026.
D'accord, parce que du coup, celui que là tu as vu, mm-hmm. c'est pas le Temple des Morts, c'est le précédent.
Si, celui-là. C'est bien le deuxième, en fait.
D'accord, alors parce que...
Sur trois.
C'est réalisé par Mia D'Acosta.
Voilà, c'est pas du tout Danny Boyle. Il produit.
Ok.
Et là, il fait appel à une autre réalisatrice.
Mm. Voilà.
Okay. Vraiment, c'est le mieux. Je suis là. Je pense qu'il est très très réussi. Il a une bonne surprise.
Voilà. Ok, oui, parce qu'il vient tout juste de sortir là le 14 janvier.
Tout à fait.
Ok, voilà. Bon.
Vous accrochez.
Violent,
c'est,
mais
ouais, c'est très très violent parfois. Pas tout le temps, mais il y a des moments c'est dur.
Je peux comprendre.
Voilà, voilà.
Eh ben, merci. Est-ce que on va peut-être parler d'un film aussi qu'on a vu, Claude, tous les deux.
Grand ciel ou pas?
Non, le film de Jim Jarmusch.
Ah oui, bah oui, tout à fait. Bah,
je regardais la liste des films et oui, le Father, Mother, Sister, Brother. Le titre à la rallonge. Est-ce que tu veux commencer, Claude?
Non, j'en ai déjà parlé, je te laisse commencer. Puis
tu veux me laisser commencer? Eh bien, écoute, voilà, c'est le dernier film de Jim Jarmusch, et on y retrouve une belle brochette d'acteurs et d'actrices, parce qu'on y retrouve Cate Blanchett, Adam Driver, Tom Waits, aussi,
toujours
vraiment
fidèle,
incroyable.
Fidèle de Tom Waits.
Qui est vraiment super. Charlotte Rampling aussi, voilà, bon, c'est... Des grands noms et c'est pas mal parce que voilà il lâche un peu les zombies là pour un film sur la famille et donc le film est divisé en trois parties dont chacune parle d'une famille différente entre et donc c'est la relation entre les enfants adultes et leurs parents parents aussi au singulier et donc Jarmusch en fait il montre je trouve enfin avec beaucoup d'humour les difficultés de communication qu'il peut y avoir entre les enfants et les parents et enfin entre les enfants adultes en tout cas et les silences les moments gênants quand on n'a rien à se dire sur un repas sur et mais de garder toujours quand même ce lien de cette relation là et malgré des dialogues impossibles voilà entre deux générations et je trouve que c'est j'ai bien aimé le principe où voilà, c'est trois parties, donc il y a des choses qui se répètent et je trouvais ça vraiment intéressant la mise en scène sur comment ce non-dialogue qui pouvait se mettre en place des secrets et je trouve qu'il s'en sort très bien. Enfin moi j'ai passé vraiment un très très bon moment. Mm-hmm. C'est bien joué, bien réalisé. Je vous suggère d'y aller. Il est c'est une valeur sûre. Et toi Claude, tu en as pensé quoi?
Ah oui, moi j'aime beaucoup ce genre de cinéma qui est un peu minimaliste. Mm. Mais moi je me mets à la place enfin, je ne me mets pas à la place de Jarmusch, mais je me dis qu'il a l'art de dire beaucoup de choses sur une famille avec rien.
Ouais. C'est bien son truc, ça. C'est son truc à Jarmusch.
Et ouais. Ça, c'est quand même ce qu'on appelle, j'allais dire, le talent au cinéma.
Ouais. Oui, hein, c'est ça.
Parce que c'est ce que je disais à un monsieur à Angers. Je dis, c'est très bien de rencontrer les réalisateurs parce qu'ils vous parlent de leur intention et puis il y a ce qu'on a vu, nous. Et la différence, bah, c'est le talent entre les deux. Ah, et là, Jarmusch, dans ce dîner de famille, on voit quelle a été leur enfance, on voit les rapports qu'il y a eu avec la... On voit tout ça avec pas grand-chose. Mmh. Et c'est quand même l'art d'un cinéaste de faire parler les images. Et c'est ce qu'il fait. Il y a que des plans... Je sais plus, c'est Fabien qui m'a dit si, moi, les plongées du plafond sur la table, je trouvais ça peut-être un peu superflu.
Il aime bien faire des plongées parfaites, je me souviens dans celui sur les vampires, etc. Oui. Il y a des très beaux plans vus du dessus, là.
Oui.
Souvent, il le fait.
Il aime beaucoup faire ça.
Ouais, j'aime bien, assez... parce que c'est aussi. Il y a une sorte de géométrie. J'aime beaucoup.
Il y a une maîtrise du cadre, en plus. Bon, allez, je vais pas insister. Mais moi, c'est quand même décrire une famille. D'abord, le scénario, même s'il est pas épais, il est quand même très écrit. Parce que faut pas.
Les dialogues.
Faut pas se tromper, notamment dans les dialogues, dans les scènes qu'il choisit. Mais ça tient à un bruit de couteau, à un placement, un geste vers la table. Et on voit. Mais c'est. Alors, bien sûr, il y a des gens qui vont dire. Je sais plus qui m'a dit, s'ennuyer, il se passe rien. T'as qu'à regarder. Si tu regardes, tu vas voir qu'il se passe plein de choses.
Mais oui, les regards.
Ah oui, le cinéma, comme on dit avec Xavier, c'est quand même un art visuel, hein. Faut regarder, c'est pas avec des dialogues. Moi, j'ai beaucoup aimé, parfois minimaliste, comme j'avais beaucoup aimé Patterson. C'est la même veine.
C'est ça.
On est dans la même veine, quoi. Enfin, arriver à passionner des gens avec un type qui promène des enfants pour aller à l'école, enfin qui emmène des enfants à l'école, qui écrit des poèmes, qui embrasse sa femme le soir et qui sort son chien pour aller pisser et boire une bière, et vous êtes là accroché. Je dis que bon, c'est quand même un mec qui a le sens du cinéma. Et n'oublions pas que Jarmusch est devenu citoyen français.
Ah oui, c'est vrai.
Oui, c'est vrai.
Il a demandé
la nationalité française. Qui, bien sûr, lui a été accordée. Il reste combien de temps?
C'est fini.
Il reste une minute.
Alors, moi, je vous demande d'aller voir deux films qui passent au Carme à l'heure actuelle. J'en ai parlé tout à l'heure. Ça s'appelle Grand Ciel.
On va reparler.
Grand Ciel, c'est un film fait par un Japonais qui a 41 ans. Il m'a dit son âge l'autre jour. Et il est juré à Annonay.
Ah.
Et qui fait un film sur des gens du bâtiment. Alors, il est dans les mêmes veines, dans le même univers que Ken Loach, les rapports humains chez les ouvriers, mais avec une mise en scène complètement différente, une mise en scène où il n'est pas dans la didactique, il est dans la suggestion.